Bienvenue dans Migraine de Savoir, le podcast qui démystifie la psychologie scientifique. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes en présence de Sarah Levaux, de Inès Pentec. Bonjour Inès.
Bonjour. Donc aujourd'hui, nous avons eu envie d'inviter Olivier Luminet. Olivier, tu es directeur de recherche FNRS en psychologie, professeur extraordinaire à l'Université catholique de Louvain et chargé de cours à l'Université libre de Bruxelles. Ta recherche s'articule autour de deux grands thèmes, le lien entre émotion, identité et mémoire d'une part, et celui entre émotion, personnalité et santé d'autre part. C'est sur ce deuxième axe que nous allons nous concentrer aujourd'hui. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Donc pour mieux appréhender la thématique dont nous allons parler avec vous Olivier, on a demandé à des personnes de définir ce qu'est une émotion selon elles et ce à quoi ça leur faisait penser et leur évoquait de façon globale. Donc on va te faire écouter ça et comme ça tu vas pouvoir globalement un peu réagir sur la question.
Je crois que pour moi une émotion c'est un ensemble de ressentis physiques et psychologiques qui me traversent et ça peut être agréable ou non, compréhensible ou non. Et je peux avoir envie de m'y attarder ou non.
C'est un état passager, plus ou moins intense.
C'est quelque chose qu'on ressent à l'intérieur, souvent provoqué par quelque chose d'extérieur.
Lié à un stimulus interne, une pensée ou externe, un message, un événement.
Et parfois, c'est cette manifestation physique qui va nous faire prendre conscience d'un sentiment. Donc par exemple, quand on est au contact d'une personne et qu'on ressent des papillons dans le ventre, on comprend qu'on est amoureux. Quand on a une grosse boule dans le ventre, au contraire, à l'approche d'un événement, c'est qu'on va comprendre qu'on est stressé. Pour moi, voilà, c'est cette manifestation physique qui traduit une émotion.
C'est quelque chose que j'identifie pas forcément sur le moment. Après coup, je me rends compte peut-être que c'était une émotion. Mais j'ai l'impression que c'est plus un état d'être, du coup, qui est plutôt externe à moi.
Je pense que je vois mes émotions comme des énormes vagues qui prennent tout sur leur passage, que ça soit positif ou négatif, mais qui du coup m'englobent totalement, que ça soit des émotions positives ou négatives. J'ai l'impression d'avoir très peu de pouvoir dessus et de mainmise. Ça vient par vagues et ça prend tout avec, quoi.
J'ai l'impression que c'est assez lié à notre expérience passée en tant qu'individu.
C'est quelque chose que l'on vit, que l'on apprend à vivre aussi, qui, moi, dans mon cas, me permet de me dire comment je vais. Et la palette d'émotions permet finalement de mieux appréhender le monde qui m'entoure, les interactions que je peux avoir avec les gens et comment je deal avec l'environnement qui m'entoure.
Dans beaucoup de bonnes idées, les gens que vous avez interviewés, et chacun est allé prendre un élément ou un autre, mais tout ce qu'ils ont dit était vraiment tout à fait correct. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut sans doute rassembler tout ça pour en faire une définition de l'émotion. Ce qui m'a frappé, par exemple, c'est le interne-externe. Assez peu, on parlait des deux en même temps. Certains étaient plus orientés sur l'émotion, c'est à l'intérieur de moi, ou l'émotion, ça vient de l'extérieur. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire que les gens sont plus ou moins frappés, sans doute par des événements récents, où ils ont identifié que c'était plus une origine interne ou externe, mais les deux sont possibles, tout à fait.
Et donc, dans ce qu'on vient d'écouter, il y a certaines personnes qui évoquaient les humeurs, les sentiments. Est-ce que, dans un premier temps, pour commencer ce podcast, tu pourrais préciser un petit peu exactement comment on définit une émotion, la différence avec justement tous ces mots d'affect, d'humeur et de sentiment ?
Ben, ce que je dirais, c'est que l'émotion, c'est quelque chose d'assez intense, d'assez soudain. Ça ne s'arrive pas nécessairement tous les jours. C'est quelque chose qui est saillant, en fait. Cette notion de saillant, c'est vraiment importante. Ça se démarque dans l'environnement. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire et qui va entraîner aussi une série de réponses que certains ont évoquées, des réponses plutôt physiques, physiologiques, le cœur qui bat plus ou moins vite, par exemple, au niveau de l'expression faciale, mais aussi de l'ensemble de notre corps. Donc, notre visage va changer, mais notre posture va changer, notre voix. Et alors, tout ce qui va concerner la sphère plutôt subjective, donc ce qu'on ressent, ce que, avec nos mots, nos expériences, on va pouvoir en dire. Donc c'est quelques éléments, je dirais, de la richesse de ce qu'est une émotion. Et une première distinction avec le terme de sentiment, c'est que le sentiment, c'est une des composantes en fait, de l'émotion, qui est cette composante que j'appelle souvent expérientielle, subjective, qui est vraiment les mots qu'on utilise pour en parler. Donc c'est le sentiment, c'est une partie de l'émotion. Et alors par rapport à l'humeur, il y a toute une série d'éléments. Un des éléments importants, c'est l'intensité, c'est une moindre intensité. Un autre élément important, c'est aussi que les humeurs sont toujours là, en fait. Toujours en arrière-fond. On n'est jamais sans humeur. Ce n'est pas possible. Donc on est, en fait, la majorité du temps dans une humeur plutôt agréable, plutôt positive. Et il y a une espèce d'ondulation comme ça de l'humeur tout au long de la journée, alors que l'émotion, c'est pop, tout d'un coup, il y a quelque chose qui apparaît et qui est vraiment très, très bien circonscrit, qui demande aussi une réponse, une réaction, alors que l'humeur, ça fait partie de notre quotidien et on va travailler avec un état d'humeur particulier, on va aller voir des amis avec un état d'humeur particulier, on marche dans la rue pour prendre son train avec un état d'humeur particulier.
Merci. Par rapport à ça, on entend aussi pas mal parler, notamment de plus en plus, des troubles de l'humeur. Donc avant de continuer à embrayer sur l'émotion, est-ce que tu aurais peut-être des petites pistes à nous expliquer pour comprendre du coup à quoi ça correspond ? Est-ce que ça peut être du coup comme différence avec les émotions globalement ?
Donc troubles de l'humeur, on va en parler par exemple par rapport à la dépression. Donc l'idée c'est qu'en fait l'humeur, au moment, ça alterne assez bien, ça varie. Donc même si on est la plupart du temps de bonne humeur, il y a des moments où on se lève le matin, le temps est horrible, on part plutôt sur la journée de mauvaise humeur, ou bien il y a une petite contrariété sur le chemin du boulot ou au boulot. Notre humeur va se modifier, on va être plutôt de mauvaise humeur, d'une humeur triste par exemple. Les troubles de l'humeur, c'est quelque chose qui se maintient sur le long terme en fait. Au lieu d'avoir cette oscillation, c'est des gens qui vont rester tout le temps en fait sur le versant de l'humeur désagréable et en particulier d'une humeur dépressive. Donc il n'y a plus de changement et c'est ça qui va susciter l'inquiétude. Et souvent d'ailleurs, dans des classifications, dans des diagnostics, on va dire... Pour pouvoir donner ce diagnostic, il faut observer que cette humeur n'a pas changé depuis X jours ou X semaines. Elle est restée comme ça tout le temps sur ce même versant. Donc c'est un des éléments qui va caractériser les troubles de l'humeur.
Et si je ne dis pas de bêtises, il me semble qu'il y a une composante génétique là-dedans, enfin, du coup, sur les tendances humorales.
Oui, il y a des influences génétiques, effectivement. Il y a toute une série d'éléments en fait, qui vont aussi influencer l'humeur. Donc, il y a les aspects hormonaux. Donc, le cycle menstruel chez la femme va aussi avoir une influence sur l'équilibre de l'humeur. Donc, il y a toute une série d'éléments en dehors d'événements particuliers qui vont effectivement la modifier au cours d'une journée, au cours d'une semaine ou d'un mois.
Et du coup, donc, comment ça se traduit en termes de ressenti et d'état mental chez nous en tant qu'individus ?
Alors, comme ça a été très bien noté par une des personnes qui donnait cette définition spontanée, notre fonctionnement de sensations corporelles, c'est par exemple un indicateur intéressant. Donc là, on n'est pas sur quelqu'un qui prend notre rythme cardiaque, et qui le mesure et qui le voit sur un appareil. C'est notre ressenti, donc ça reste subjectif, mais on a des sensations en fait. Hein, une boule dans la gorge, l'impression d'avoir chaud, d'avoir froid... Ça, tout d'un coup, ça peut nous mettre en alerte. Je dirais surtout, si c'est une émotion qui est générée de manière interne, de se dire, tout d'un coup, tiens, c'est bizarre, je ne me sens pas comme d'habitude, il a dû se passer quelque chose. Et alors, ça force à être un peu plus attentif, à se dire, tiens, mais il doit y avoir quelque chose. Et donc, il y a effectivement eu, justement, ce matin, un événement particulier qui m'a vraiment... très très fort touché et la réaction émotionnelle se met en place. Ça peut être un élément d'information. Un autre élément, alors plus pour des émotions externes, c'est dans l'environnement direct, un bruit particulier, un mouvement particulier. Donc c'est vraiment cette idée que on ne fait pas particulièrement attention à l'environnement, mais tout d'un coup, il y a quelque chose de visuel ou d'auditif qui retient vraiment, qui capture notre attention.
Et du coup, en parlant justement de l'attention, on peut se dire que suivant notre état émotionnel, on peut être plus ou moins capable d'accorder de l'attention à certains objets. Et donc, ça mène à la question de est-ce que nos émotions ont un impact sur notre cognition, nos capacités à porter attention en l'occurrence. Est-ce qu'il y a une interaction entre émotions et mémoire, attention, jugement?
Il y a d'énormes interactions entre les deux. C'est vraiment un système très dynamique et fluide. Nos émotions influencent nos cognitions. Nos cognitions influencent nos émotions. Donc, on peut voir, par exemple, que dans un état émotionnel, l'état émotionnel renforce notre attention sur certains champs particuliers. Il y a une fixation sur un élément en particulier. Et donc, par exemple, au niveau de la mémoire, il y a toute une série d'études qui montrent vraiment bien que l'émotion renforce en général les capacités de mémoire. Il y a un effet vraiment stable, bien établi, jusqu'à une certaine limite. Et alors là, dans cette limite très intense, là, il y a un peu plus de débat, parce que quand on s'approche de ce qu'on va appeler les émotions plus traumatiques, certains vont dire que ça se poursuit dans le continuum, mais d'autres vont dire non. En fait, l'information va commencer à devenir fragmentée, désorganisée. Donc disons, en tout cas, dans le range normal d'intensité, quand il y a quelque chose d'émotionnel, ça va plutôt favoriser l'encodage et donc après la rétention en mémoire.
Donc, est-ce que ça a un lien avec le syndrome d'amnésie post-traumatique, par exemple ? Enfin, quand vous dites que pour des émotions trop importantes, justement, l'enregistrement de nouveaux souvenirs, donc l'encodage, comme vous dites, est perturbé, est-ce que c'est par ces mécanismes-là qu'on est amené à avoir des amnésies post-traumatiques?
Il y a plusieurs explications, en tout cas, du fait que le trop-plein d'émotions va donner des perturbations de la mémoire. Ce qui est intéressant de noter, c'est que plus souvent, en tout cas, on observe une hypermnésie qu'une amnésie dans le cas d'intensité très très forte. On est plus souvent en fait dans un processus de pensée intrusive, de pensée non contrôlable qui envahissent notre champ. Mais je pense qu'on retient beaucoup plus l'idée de l'amnésie parce que c'est plus spectaculaire en fait et c'est sans doute plus médiatisé aussi. Mais c'est plus rare. Il faut savoir que c'est plus rare en fait.
Et alors, je reviens juste sur avant, tu disais que tu as dit qu'il y avait voilà, ces ressentis physiques qui pouvaient venir de l'intérieur ou de l'extérieur en fonction des stimuli qui venaient chercher ça. Ça m'a fait penser, j'imagine qu'il y a aussi une partie apprise de à quel point, parce que donc, dans les interviews, enfin dans le micro-trottoir, on entendait les gens qui disaient bah, moi je les ressens pas ou je les capte pas, d'autres qui disaient bah, moi je les ressens assez bien, j'ai l'impression. C'est quoi en gros la partie apprise dans comment est-ce qu'on les perçoit, comment est-ce qu'on les vit? Et j'imagine les formules aussi, tu parlais de sentiment du coup qui est la partie plutôt perceptive. Est-ce que tu saurais un peu nous dire voilà, sur la partie apprise de comment est-ce qu'on s'éduque aux émotions de façon globale?
Donc là, il y a un aspect très important au niveau du développement. Donc un enfant, il naît avec des sensations et donc il a déjà une perception de l'agréable ou du désagréable, de la douleur par exemple. Et donc il va pleurer quand il veut manifester effectivement sa détresse. Ça va être un premier élément, je dirais, assez spontané qui est lié à ces sensations désagréables. Par rapport aux sensations agréables aussi, il va commencer à repérer des situations qui procurent des émotions positives. Et ce qui va être essentiel, c'est tout le travail de labellisation de ces émotions, en fait, qui pour lui, au début, c'est simplement des sensations. Et puis, à un moment donné, les parents, mais tout l'entourage aussi, va commencer à donner des mots, à associer des mots. Tu m'énerves vraiment, là. Je t'aime tellement fort. Je suis très triste aujourd'hui. Grâce à ce que les parents vont dire, ou aux histoires, aussi les histoires pour les enfants sont fort orientées aussi sur mettre des mots sur des situations particulières, progressivement les enfants vont arriver à comprendre que quand il y a telle situation, ça veut dire tristesse ou ça veut dire colère, qu'à un moment donné, il y a peut-être différentes émotions qui viennent en même temps, qu'il y a des émotions contradictoires. Donc tout ce processus de développement émotionnel va être extrêmement important pour qu'à l'âge adulte, on ait acquis certaines compétences en termes de reconnaissance des émotions, de l'identification des émotions ou de communication des émotions aux autres.
Donc, effectivement, on acquiert en grandissant et par notre développement cette capacité à identifier nos émotions et on les ressent dans la vie au quotidien. Mais concrètement, à quoi elles nous servent, à quoi, enfin, quels sont les rôles ou des fonctions de ces émotions?
Alors, c'était un petit peu évoqué aussi dans les témoignages. Effectivement, il y a des gens qui disaient, ah, mais quand j'ai une émotion, alors ça m'aide notamment à décider. Donc, par exemple, dans la prise de décision, les émotions sont extrêmement importantes. On a remarqué que les émotions donc, ne servent pas simplement à ressentir quelque chose, mais elles vont dans un but particulier. Donc, dans des moments de choix, par exemple, imaginons le choix professionnel, il y a cette idée que bah, quand on envisage différents scénarios, on va y réagir de différentes manières et on se crée des émotions en soi-même et ces émotions en nous-mêmes vont nous aider à se dire « Tiens, mais ça, c'est peut-être ce qui me convient mieux par rapport à un autre choix. » Donc, prise de décision, c'est une fonction essentielle. Les émotions aussi ont une autre fonction vraiment essentielle, c'est la communication. Donc, on communique sans le savoir, en fait, beaucoup avec nos émotions. Les regards, le visage, c'est des éléments extrêmement importants. Donc, les gens ne s'en rendent pas souvent compte, mais un ami va leur dire « Mais t'as une drôle de tête aujourd'hui. » Donc, on ne se rend pas compte de ça. On se dit « Ah, mais comment tu as deviné ?» Mais simplement parce qu'on voit le visage, en fait. Donc, ça, c'est un élément très important qui aide, en fait. Donc, quand on est dans un état un peu de détresse et qu'on n'ose peut-être pas demander de l'aide, heureusement, notre visage informe les autres en disant « Hé, là, il y a quelque chose qui ne va pas très bien chez mon meilleur ami, il faut peut-être que je fasse quelque chose. » Et donc, cette fonction de communication est aussi extrêmement précieuse et crée aussi un lien social particulier, permet aussi de décider à certains moments de comprendre aussi que la personne est peut-être moins en besoin de lien. On voit par exemple que dans la tristesse, c'est une émotion qui est plus orientée sur le repli sur soi, et à un moment, on a besoin d'être plutôt dans sa bulle. Et donc, cette expression, ce visage de tristesse peut aussi permettre de communiquer à des gens qui sont peut-être moins proches, laissons-le en paix pour le moment, il ne faut peut-être pas trop le déranger.
J'imagine qu'il y a des personnes qui vont intuitivement vouloir consoler quelqu'un qui serait triste, là où dans certaines cultures, c'est perçu comme un truc qui est de l'ordre du personnel et qui du coup n'appartient pas à la sphère sociale. Donc il y a aussi la navigation entre sphère individuelle, sociale.
On apprend effectivement des règles aussi qui sont plus culturelles. Et donc il y a toujours ce grand débat entre inné et acquis, mais donc, cet aspect de culture est extrêmement important. À la fois dans l'expression et dans le ressenti. Donc ça, c'est une distinction importante dans ces études interculturelles, c'est que l'expression varie beaucoup, en fait. Ça, on peut voir que la manière d'exprimer ses émotions, par les gestes, par le visage, il y a pas mal de variabilité. En termes de ressenti, il y a sans doute plus d'universel quand même. Il y a quand même, dans toute culture, des situations liées à la perte qui vont provoquer de la tristesse. Il y a toujours des situations liées à l'injustice qui vont conduire à la colère, par exemple. On voit quand même que, même si le type de déclencheur n'est pas le même, en tout cas, l'élément qui va créer ce déclenchement émotionnel est similaire.
Juste avant, tu parlais donc des différences et tout, et ça me fait penser beaucoup aux différences de genre qui sont quand même les plus saillantes, notamment en termes d'apprentissage et des rôles qu'on a vis-à-vis des émotions. Je pense aux dessins animés élémentaires que j'ai vus, je trouve qu'ils font bien la différence entre les émotions des différentes classes sociales. Les classes plutôt défavorisées sont associées à la colère, ou les classes plutôt favorisées à la tristesse. Donc ça, c'est aussi un truc qu'on apprend de façon différenciée, de façon discrète.
Effectivement, il y a cet apprentissage des émotions discrètes, qui est déjà plus complexe. Donc, parfois, certains parlent d'émotions de base, et puis après d'émotions complexes qui sont en fait un mélange de ces émotions de base. Et c'est vrai que si on prend par exemple les différences de genre, il y a encore de nos jours certaines attentes par rapport à cette expression des émotions, et notamment l'idée que chez les garçons, peut-être l'expression des émotions n'est pas tellement favorisée, sauf la colère, qui est une émotion là qui est admise socialement, mais beaucoup moins les autres. Donc, beaucoup plus difficile, par exemple, sur des émotions comme liées à des aspects de tendresse, par exemple. C'est quelque chose qui ne va pas nécessairement être valorisé dans l'éducation d'un garçon. Et évidemment, ça va avoir une influence plus tard dans son évolution, de ne pas avoir été peut-être aussi bien préparé à vivre, à comprendre, à ressentir, à exprimer tout type d'émotions.
Et Olivier, tu travailles également sur une condition qui est très intéressante en lien avec l'émotion, qui s'appelle l'alexithymie. Est-ce que tu voudrais bien nous expliquer ce que c'est et d'où ça vient ?
Alors l'alexithymie, c'est un trait de personnalité, une chose de relativement stable, qui vient notamment suite à un développement émotionnel dans lequel les parents n'encouragent pas du tout l'expression d'émotions dans la famille. Et donc, ce manque de repères émotionnels peut conduire alors à des difficultés à identifier les émotions, à les différencier. Donc, ce sont des gens qui n'arrivent pas très bien à savoir ce qu'ils ressentent et à savoir exactement si c'est plutôt de la colère ou de la tristesse, par exemple. Alors, en corollaire de cette problématique d'identification, il y a aussi une difficulté de verbalisation. C'est des gens qui ont du mal à parler de leurs émotions aux autres. Et ils ont aussi un style de pensée particulier qui est très concret, très pragmatique, très peu orienté sur la vie fantasmatique, donc assez peu d'imagination aussi. Et de manière intéressante, c'était mis en évidence par des cliniciens en fait, qui observaient des gens qui avaient des problématiques physiques. Donc ils arrivaient à l'hôpital, par exemple, avec un ulcère d'estomac. Et à côté du traitement médical, ces psys, qui étaient plutôt des psychiatres, remarquaient qu'il y avait quand même des caractéristiques psychologiques assez étonnantes, que de manière assez constante, il y avait ce type d'association entre ces caractéristiques que je viens d'indiquer. Et dans les années 70, alors deux chercheurs américains de Boston ont systématisé un peu ces observations et ont parlé d'alexithymie. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est lié à des problématiques émotionnelles et plutôt dans le manque d'émotions. Et que ce manque d'émotions semble avoir un lien, alors sur la santé mentale, ce qui paraît assez facile peut-être à comprendre, mais aussi sur la santé physique, ce qui paraît peut-être un petit peu plus mystérieux.
Et justement, est-ce que tu peux peut-être développer un peu sur ces conséquences sur la santé physique ? Comment ça se produit et quelles sont les conséquences qu'on peut observer ? Tu as déjà mentionné la présence d'ulcères.
Alors là, il faut tout de suite nuancer aussi. Je parlais d'ulcères parce que c'était une époque où on avait l'impression qu'il y avait 7 maladies psychosomatiques, donc seulement 7 maladies pour lesquelles il y avait une composante psychologique et qu'elle était très importante. Maintenant, on en est plus à dire que pour beaucoup de maladies somatiques, il y a une composante psychologique, mais parmi toute une série d'autres éléments. Donc, ce qui est intéressant, par exemple, c'est qu'il y a des études prospectives dans lesquelles on examine les risques d'accidents cardiaques à 10 ans ou 20 ans. Donc, on a des gens qui sont en bonne santé au début de l'étude. On mesure leur niveau d'alexithymie parmi toute une série d'autres éléments. Et on se rend compte que 10, 20 ou 30 ans plus tard, les gens qui ont des caractéristiques alexithymiques prononcées ont plus de risques d'accidents cardiaques après avoir contrôlé, évidemment, pour toute une série de choses, parce que ce n'est pas juste parce qu'on a l'alexithymie qu'on fait un accident cardiaque. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en plus, par exemple, du manque d'activité physique, d'un régime alimentaire trop riche en sucre et en graisse, par exemple, qui sont des choses qui vont augmenter le risque, l'alexithymie est encore un élément additionnel. Il vient encore se mettre en plus. Et c'est pour ça qu'on parle de vulnérabilité et de vulnérabilité aussi en termes de maladies physiques.
Je trouve ça super intéressant et en fait ça me fait beaucoup penser à cet a priori selon lequel l'émotion viendrait beaucoup interférer avec la raison. Et tu disais que pour l'alexithymie, du coup, c'est des personnes qui au contraire ont tendance à peut-être avoir, je ne sais plus lequel mot tu as utilisé, mais moins d'imagination.
Oui, une vie imaginaire moins développée, oui.
Ça fait penser à ce que tu disais avant sur la question de l'émotion qui aide dans la mémorisation, dans la focalisation de l'attention. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire un peu de cet a priori sur les émotions qui est super fort et très ancré de les émotions ne vont pas avec la raison. Souvent, c'est aussi un truc dans les postes de décision où justement, on écarte beaucoup les femmes parce qu'elles sont soi-disant émotionnelles, je mets des gros guillemets, là où les hommes sont plus de sang-froid parce que du coup, ils ont encore une fois une éducation différente à l'émotion. Comment ça vient s'ancrer, ça, d'un point de vue social et sociétal, en fait, cette perception de l'émotion, alors qu'on voit que les sciences nous disent l'inverse?
Donc, effectivement, les sciences nous montrent l'importance des émotions. Je pense que un élément explicatif, c'est quand on prend l'échelle de l'histoire sur le long terme, et allez, commençons assez loin dans l'Antiquité grecque, ça nous fait 2500 ans. Sur 2500 ans, en fait, les moments dans lesquels on considère les émotions comme fonctionnelles sont très réduits, en fait. Mais en même temps, c'est très fort maintenant. Donc, on est plutôt dans une civilisation dans laquelle on va encourager beaucoup plus l'expression des émotions, et chez tout le monde, et dans un maximum de circonstances. Mais on a derrière nous quand même un bagage de centaines d'années dans lesquelles on disait non, c'est deux choses totalement différentes. Et la raison va être complètement altérée par les passions. Et donc, les passions vont détruire notre raison. Donc, il faut vraiment s'en détourner le plus possible pour pouvoir justement être performant, notamment au travail. Donc, je pense que c'est une des explications, c'est que malgré toute une série de démonstrations scientifiques, il y a encore cette espèce d'héritage assez lourd dans notre société occidentale, vraiment de cette idée de séparation. Et même si elle gagne du terrain, elle reste encore assez présente. Si je dois aller dans des gros stéréotypes, je dirais aussi que c'est plus souvent chez des hommes aujourd'hui qu'il y a une résistance par rapport à cet élément-là, de dire effectivement qu'il faut introduire ces aspects émotionnels. Et y compris au travail, effectivement. Et là, c'est aussi un domaine dans lequel c'est important de réaliser que des aspects émotionnels vont jouer à des tas de moments différents, dans des processus de prise de décision, notamment. Et donc, déjà, en être conscient, ça va être quelque chose de très important.
On voit que les émotions, c'est quand même très important pour l'être humain. C'est un indicateur qui, j'imagine, dans un sens, permet la survie, sans être dans une théorie essentialiste des émotions. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on pourrait mieux inclure l'appréhension des émotions dans notre quotidien, dans la société en général, notamment en termes d'éducation, peut-être réussir à apprendre à mieux verbaliser.
Je pense que c'est important de pouvoir repérer assez tôt des enfants qui seraient dans des difficultés émotionnelles, tout en étant très prudent, parce qu'on sait que ces stades d'acquisition varient d'un enfant à l'autre. Que la socialisation va jouer beaucoup. On avait notamment réalisé une étude avec des parents plus ou moins alexithymiques et des enfants de 3 ans et 5 ans. Ce qui était très intéressant, c'est qu'on voyait que des parents d'enfants de 3 ans, qui étaient fortement alexithymiques tous les deux, les enfants, dans des tâches, où on leur lisait une histoire, on leur disait « Tiens, quelle émotion penses-tu que le personnage a ressenti ?» ou « Reconnaître des émotions », leur performance était moins bonne. Très clairement par rapport aux situations où il y avait un parent alexithymique ou aucun parent alexithymique. Mais ce déficit disparaissait à 5 ans. Et notre explication, c'est que là, le rôle, la socialisation est plus important. Ils sont plus intégrés à l'école. Et donc, l'école permet de récupérer, sans doute, des difficultés qui se rencontreraient uniquement au niveau de la sphère familiale. Et donc là, peut-être, au niveau de l'école, il y a des choses à faire. Parce que effectivement, il y a des enfants qui sont dans un univers dans lequel les émotions sont mises tout à fait de côté. Et ça peut nuire aussi à leur apprentissage. Donc moi, je pense que, comme ça se fait en Scandinavie, intégrer des moments de discussion et d'ouverture aux émotions en montrant en quoi ça peut servir, en quoi ça peut aider, ce serait quelque chose de vraiment utile. À l'époque de la reprise des cours après le Covid, on avait essayé d'insister là-dessus. Et malheureusement, il y a cette tendance, apprentissage. Les enfants ne sont pas allés à l'école. Il faut vite qu'ils apprennent toutes les matières en mathématiques et en français. C'est essentiel. Mais en fait, je pense que rétrospectivement, si on avait organisé des ateliers, discussions sur comment vous avez vécu aussi toute cette période très particulière, ça aurait sans doute eu des effets nettement meilleurs à la fois sur le bien-être des enfants, mais aussi sur leur apprentissage, en fait, sur les deux niveaux.
Mais du coup, ça va presque un peu avec cette vision très rationaliste dans la société de apprendre à tout prix sans considérer les modes d'apprentissage qui peuvent passer par l'émotion du coup et le ludique en fait. Enfin...
Oui, tout à fait. Il y a un manque d'intégration effectivement. Il y a peut-être une reconnaissance que c'est important, mais un saut qu'on n'a pas encore franchi, c'est important à plein d'endroits différents, y compris à l'école où on aurait tendance à dire non, il faut laisser les émotions pour après l'école.
Et ben, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup pour cet échange très intéressant. Nous espérons que vous avez apprécié l'écoute de cet épisode de 1000 grammes de savoir avec Olivier Luminet. N'hésitez pas à consulter notre site 1000grammes.ulb.be qui contient des informations complémentaires où vous trouverez notamment un lexique et des références en lien avec l'épisode que vous venez d'écouter.
Vous pouvez vous abonner à notre podcast sur iTunes, Spotify ou SoundCloud et nous suivre sur Facebook, Instagram et X. N'hésitez pas à nous faire savoir ce que vous pensez de ce podcast en nous laissant des étoiles sur Spotify, iTunes et Facebook, ainsi qu'en nous contactant par email via 1000grammes de savoir@gmail.com.